Bonjour à toutes et à tous, l'Union nationale des associations familiales tient son grand congrès national ce week-end à Rodez, l'occasion pour nous de recevoir la présidente de l'UNAF, présidente nationale, Marie-Andrée Blanc. Bonjour Madame Blanc.
Bonjour à tous.
Vous étiez déjà venue en Aveyron ou vous découvrez le pays ?
Je suis déjà venue en Aveyron pendant, j'ai effectué déjà deux séjours parce que j'ai eu la chance d'être invitée par l'UDAF de l'Aveyron, ouais. Qui est organisatrice également de l'AG de l'UNAF. Mm-hmm. Donc, avec grand plaisir, j'ai retrouvé mes collègues aveyronnais. Et puis, j'étais venue une autre fois pour une rencontre interrégionale cette fois. Et bien sûr, je suis ravie puisque depuis deux ans, malheureusement, nous n'avons pas pu tenir notre Assemblée Générale à Rodez alors qu'elle était prévue. À l'été 2020, mais pour cause de pandémie, on le sait tous, cause de Covid-19, elle a été reportée en 2021. Et malheureusement, la Covid étant toujours là, nous avons dû attendre 2022. Mais c'est avec un très très grand plaisir que j'ai rejoint ce très beau département et surtout cette très belle équipe, une équipe compétente, accueillante, qui est à la gouvernance de l'UDAF de l'Aveyron et avec l'ensemble du personnel et tout le personnel.
Et la présidente de l'UDAF de l'Aveyron est aussi avec nous dans les studios, on la connaît bien sur CFM, c'est Marie-Josée Moïsset. Bonjour Marie-Josée.
Oui, bonjour.
Tout va bien ?
Eh
bien
tout va bien.
Parce qu'organiser un rendez-vous comme ça, c'est du boulot.
Bah écoutez, on y arrive. Ouais. On a aussi des équipes de salariés très compétentes, dynamiques et qui nous permettent d'organiser cette Assemblée Générale dans les meilleures conditions. Et puis effectivement, on s'y prépare depuis déjà deux ans.
Par la force des choses. Ouais.
Ouais. On est au point. Pas de stress, ça va, c'est très bien. Et puis surtout, c'est un grand honneur pour l'UDAF de l'Aveyron, pour le département de l'Aveyron aussi, qui est un département rural, de recevoir l'Assemblée Générale de l'UNAF, qui souvent se tient dans des villes beaucoup plus importantes que Rodez. Et on n'est pas peu fiers de pouvoir organiser cet AG.
Parce que l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales, son congrès, c'est, j'imagine, énormément de monde, énormément de représentations. Madame Blanc, vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est que l'UNAF en quelques mots, mais ça va être compliqué.
Alors l'Union Nationale des Associations Familiales est l'interlocuteur privilégié de l'ensemble du gouvernement, du président de la République, du Premier ministre et de tous les ministres pour effectivement parler conditions familiales. Donc on est présent, on travaille avec tous les ministres parce que les familles sont présentes dans tous les domaines que sont la santé, le travail, l'éducation, absolument tous les domaines.
Ah oui, la famille est au cœur de la société. Et alors quand on pense famille, on peut penser parents, enfants, mais c'est aussi grands-parents. Enfin c'est vraiment tout le monde d'une façon ou d'une autre appartient à une famille.
Hein. Exactement, tout le monde a une famille, tout le monde appartient à une famille et la famille c'est la base de la société. C'est là où ça prend effectivement certaines valeurs de respect, d'éducation, etc. Donc je pense que tout le monde est concerné par des questions familiales et bien évidemment moi je suis ravie de voir arriver dans Rodez, des 5 à 600 congressistes qui vont nous rejoindre. 5 à 600 personnes battent le pavé à Rodez. Et c'est aussi une occasion de valoriser le patrimoine, on va dire, de Rodez, mais des environs.
Oui, les associations familiales, c'est bien au pluriel. Et c'est pour marquer le grand nombre d'associations qui font partie de l'UNAF et aussi leur grande diversité.
Tout à fait. À l'UNAF, nous sommes divers. Nous sommes aconfessionnels et apolitiques. Et le pluralisme est de mise. Donc, associations familiales, vous avez des mouvements à recrutement général, des mouvements à recrutement spécifique, des associations qui ne sont fédérées à aucun mouvement, mais qui sont des associations familiales, et évidemment qui remplissent les missions que nous a données le législateur, à savoir de représenter les familles, de défendre les intérêts des familles, et bien sûr de donner avis au pouvoir public, et de gérer des services d'intérêt familial. Et d'ailleurs, belle inauguration en Rodez d'une maison accueil d'une maison relais, mais là je laisserai plus la présidente de l'UDAF vous en parler.
Allons-y Marie-Josée Moussou, parce que Madame Blanc a inauguré une résidence d'accueil à la Gineste. C'est quoi parce que
alors accueil... une résidence accueil, c'est du logement accompagné pour des personnes qui ont des revenus modestes et qui de surcroît souffrent de troubles psychiques qui ne leur permettent pas de vivre totalement facilement dans la société.
D'accord.
Bon, il y a un certain rejet aussi de ces personnes-là. Il n'y a pas toujours de la bienveillance par rapport à ces personnes. Et puis, ces personnes-là souffrent d'isolement, etc., ont besoin d'un accompagnement. Là, on leur offre des logements individuels. Donc, ils sont chez eux. Et le plus, c'est des activités collectives, un accompagnement social et d'animation. Nous avons deux animatrices. Bon, ils peuvent organiser des activités collectives, des sorties, ils peuvent faire de la cuisine, manger ensemble, etc. Donc, il y a toute une vie collective, mais il y a aussi une vie privée. Les logements sont privatifs et ça permet à ces personnes-là qui, quelquefois, sont un peu mal dans des logements tout seuls, ou mal avec les questions de voisinage, etc., d'acceptation, de trouver un équilibre, une stabilité. C'est extrêmement positif. Alors, l'accompagnement dans ces structures est financé par l'État.
Combien d'appartements ?
Nous avons 20 appartements.
Ils sont tous occupés déjà ou...
Il en reste un, mais qui va être occupé très prochainement. Okay. Et ensuite, nous avons le même dispositif sur deux casiles.
Et c'est du neuf ou c'est une rénovation
Alors là, nous avons travaillé en partenariat avec Solia d'Aveyron.
Ah d'accord, oui.
Solia d'Aveyron qui acquis les locaux, c'est l'ancien pôle emploi de Rodez.
D'accord.
Qui a acquis les locaux, qui les a rénovés. Et l'UDAF est locataire de ces locaux. Et ensuite, les résidents paient une redevance et ils bénéficient d'une allocation logement majorée dans la mesure où ils sont dans du logement accompagné.
Madame Blanc, ce type de résidence d'accueil pour l'UNAF dans différents départements, c'est quelque chose d'assez courant ou on est dans quelque chose d'exceptionnel, je ne sais pas si c'est le mot, ici en Aveyron?
Alors actuellement, nous avons 70 UDAF sur les 100 UDAF qui composent l'UNAF. Eh bien, qui sont dans ce dispositif-là.
D'accord.
Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on connaît. C'est le dispositif qu'on appelle dans notre jargon famille gouvernante. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, a démontré des preuves pour pouvoir permettre à des personnes vulnérables de vivre comme tout un chacun et de gagner en autonomie. C'est aussi par l'accompagnement qu'on mettra ces personnes-là, je pense, plus autonome. Et on a tous intérêt à ce qu'ils soient intégrés dans la société. Et c'est vrai que dans le quartier donc, où est positionnée cette maison relais, on peut voir qu'il y a une vie autour du quartier, autour de cette maison. Donc les gens peuvent aller se promener, peuvent prendre le bus. Il y a une ligne de bus qui dessert très bien ce quartier-là. Il y a des magasins, etc. Donc je pense qu'ils ne sont pas isolés, bien au contraire. Et c'est grâce à l'accompagnement qu'il leur est procuré par les services de l'UDAF qu'on peut envisager, bien évidemment, une intégration beaucoup plus importante et beaucoup plus... je dirais, pour eux, beaucoup plus intéressante. Et on le voit très bien, parce qu'hier, moi, j'ai vu vraiment des visages sur les personnes qui résident dans cette maison. Et puis, j'ai vu énormément de sourires également au niveau du personnel qui les accompagne. Parce qu'il faut reconnaître aussi les compétences de ce personnel-là, leur disponibilité. Ils sont à l'écoute. Ils sont toujours là pour solutionner des problèmes et même pour intervenir avant que le problème ne surgisse. Donc, vraiment, des félicitations absolument à ces personnels-là qui font un accompagnement de qualité qui croient dans leur travail. Donc je pense qu'il faut vraiment le dire et les valoriser. Il faut reconnaître ces métiers du médico-social. Parce que vous avez l'UDAF qui gère également des mesures de tutelle et de curatelle. Et quelque part, il faut se dire que c'est grâce au travail diligenté par l'ensemble du personnel de l'UDAF, et je veux vraiment parler de l'ensemble du personnel, que l'on peut s'occuper de personnes dont personne ne s'occuperait. Des personnes vulnérables qui seraient laissées au bord de la route, qui deviendraient peut-être des SDF, etc., qui n'auraient pas accès à la santé. Il y en a certains qui peuvent aussi retrouver quelques heures de travail, etc. Donc c'est vraiment l'intégration de ce personnel, de ces personnes vulnérables, et qui est vraiment à féliciter, et surtout le rôle de tous les salariés. J'insiste bien, de tous les salariés.
Marie-Josée, question piège. Des salariés à l'UDAF à Aveyron, vous savez à peu près combien il y en a là en mi-2022? Vous êtes combien?
Mais on a 80 salariés.
Ah ben bah, c'est pas une question piège, elle me répond tac tac. Voilà, parfait. Merci beaucoup.
Pas tous à temps complet, on a à peu près 76 équivalents temps plein.
Merci. Bon alors là, à travers cette inauguration de la résidence d'accueil à la Gineste, on a évoqué quelques-uns des aspects du large champ des activités.
Je peux ajouter quelque
des
chose.
Des associations, oui, départementales.
La réalisation au niveau du bâtiment est assez exceptionnelle. Elle est sur le plan esthétique.
Ah bon?
Sur le plan de... Très fonctionnel, très bien isolé, haute qualité environnementale, etc. Et ce qui est important aussi, je voulais le souligner, c'est de pouvoir offrir à des personnes qui, souvent, de par leurs difficultés, sont logées dans des logements, effectivement, quelquefois un peu limites, on leur offre là une qualité de logement assez exceptionnelle.
Alors, Marie-André Blanc, vous avez évoqué l'isolement, les personnes vulnérables, l'autonomie. Ça nous amène au thème du congrès de l'UNAF ce week-end en Aveyron. C'est le grand thème sur lequel vous allez discuter, échanger tout ce week-end avec les congressistes.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a un fil rouge, hein, toujours lors d'une assemblée générale de l'UNAF. Nous avons un fil rouge et cette année, le fil rouge, c'est face à la perte d'autonomie d'un parent, quel rôle et quel soutien pour les familles ? Parce qu'il faut quand même se souvenir, avoir en tête qu'il y a 11 millions d'aidants familiaux.
Ah ouais, d'accord. Oui.
Donc, c'est un chiffre très important. Oui. Et il faut savoir qu'on peut être aidant d'un parent, mais on peut être aidant d'un frère ou sœur, d'un ami, d'un proche, etc. Et très souvent, les aidants familiaux sont des salariés. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour devenir aidant. Et vous avez également des jeunes qui sont aidants de leurs parents. Là aussi, ne les oublions pas. Je pense que, bon, on le sait très bien actuellement, on est dans une situation où la société est très fracturée. On a vu la problématique de la pandémie, du Covid. Et on sait très bien que si notre pays a tenu face à la Covid, face aux restrictions que nous avons pu subir et qu'il fallait subir pour éviter évidemment une propagation plus importante et surtout venir en soutien aux hôpitaux, on ne peut pas l'oublier, hein, je pense que le problème aussi est là, eh bien, c'est de se dire que les familles ont joué ce rôle d'amortisseur. Ils ont récupéré leurs jeunes qui étaient en études à droite ou à gauche, mais certains aussi ont récupéré des anciens qui étaient en maison de retraite ou à domicile chez eux et qui étaient privés évidemment de toute visite. Donc je pense que les aidants familiaux, là aussi, vraiment à ne pas négliger et surtout à soutenir. C'est l'objet du congrès de l'Assemblée Générale de l'UNAF, le fil rouge de l'Assemblée Générale, et on aura effectivement des intervenants, on aura des UDAF qui interviendront pour dire bah, voilà chez nous ce qui se passe, voilà ce qu'on a mis en place, etc. Et un service qui est porté aussi par l'UDAF de l'Aveyron et qu'il faut mettre à l'honneur, c'est le service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux. Parce que très souvent, quand on est aidant, on est aussi tuteur familial. On a hérité d'une mesure de justice qui a été prononcée par le tribunal et on a les mêmes obligations qu'une institution. Paris. C'est vraiment à dire, on soutient ces familles-là, on leur explique comment on gère une mesure de tutelle. Alors, vous allez me dire, mais vous êtes finalement en concurrence avec ce que fait l'UDAF, puisque nous avons aussi des mesures de tutelle et de curatelle. Mais quelque part, ces familles-là ont tout intérêt, c'est aussi dans leur gène d'accompagner effectivement ces personnes vulnérables et de se dire ben, j'accepte la tutelle ou la curatelle, mais il y a des obligations et c'est pour vraiment les aider dans ces obligations-là.
Alors le thème de ce congrès se termine par un point d'interrogation. Donc ça veut dire que vous posez des questions, chacun va être libre de discuter autour. Si j'ai bien compris, chacun veut aussi peut-être présenter ses solutions locales, donc les confronter avec les autres, les proposer aux autres. Et d'une façon générale, ce congrès s'adresse aussi, puisque vous m'avez dit que l'UNAF était l'interlocuteur du gouvernement, des ministres, des autorités. Vous adressez aussi à elle, à travers ce questionnement ?
Alors, l'UNAF est un corps intermédiaire à lui tout seul. Ouais. À elle toute seule, pardon. Nous sommes vraiment un corps intermédiaire. Et évidemment, actuellement, on a tous constaté les résultats des élections de dimanche soir. On a vu la mise en place donc, du gouvernement sous la responsabilité d'Elisabeth Borne. Et il y a un grand manquement dans ce gouvernement. On a certes un ministre qui s'appelle Solidarité, qui a en charge le handicap, les personnes âgées, Damien Abad. Et quelque part, on ne voit pas associer le terme famille.
Non,
il est en responsabilité, lui-même le dit, effectivement. Il est aussi ministre qui va gérer les problèmes. C'est le ministre qui est attribué actuellement à la famille. Mais en ce qui concerne son portefeuille, il est tellement large qu'on appelle de nos voeux, bien évidemment, à minima, un secrétaire d'État, enfance, famille.
Comme ça a été le cas il y a encore peu de temps et depuis très longtemps.
Comme ça a été le cas dans le gouvernement Jean Castex, où nous avons eu évidemment un secrétaire d'État enfance-famille, Adrien Taquet, qui a été notre interlocuteur privilégié pour toutes les questions d'ordre familial. On a eu une conférence des familles au mois d'octobre. À la suite de cette conférence des familles, où nous sommes intervenus, nous avons parlé beaucoup conciliation vie familiale, vie professionnelle, parce que c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut voir. Il faut permettre aux jeunes familles d'avoir des enfants, mais on sait très bien que ces jeunes familles veulent rester dans le monde du travail. Donc, quelque part, il faut concilier cette vie familiale, cette vie professionnelle. Et à la suite de cette conférence des familles, Jean Castex a saisi le Conseil économique, social, environnemental, la troisième assemblée de la République.
Dont vous êtes une vice-présidente, madame Blanc.
Où j'occupe le poste de vice-présidente et je suis également vice-présidente de la commission affaires sociales santé.
D'accord.
Et la lettre de saisine de Jean Castex, qui nous est parvenue donc début décembre, était sur le thème « Le service public de la petite enfance ». Donc nous avons travaillé sur cet avis, je l'ai co-rapporté avec une de mes collègues qui émane du syndicat CFTC, et nous avions comme lettre de commande du Premier ministre et du ministre Adrien Taquet de rendre nos travaux avant la fin du mois de mars, puisque ensuite nous étions en période de réserve.
Ouais.
Et pendant cette période-là de travail, eh bien, le président de la République, le candidat, je devrais dire, à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il y aurait la mise en place d'un service public de la petite enfance. Et si on veut cette mise en place du service public de la petite enfance, il est clair qu'il faut qu'on ait le ministre qui va avec.
Et vous poussez un petit peu, vous, là-dessus, parce que bon, il y aura un gouvernement qui doit forcément être nommé ces prochains jours ou semaines, on ne sait pas trop. Mais vous, vous essayez de... Alors là, il y a le micro de CFM. Enfin, je ne suis pas sûr que je monte jusqu'à l'Élysée. Vous essayez de dire, écoutez, ne nous oubliez pas, on a des sujets, on a un rapport, on a un candidat qui a évoqué nos sujets. Ça marche un peu comme ça aussi ou pas ?
Exactement, c'est quelque chose effectivement qui nous anime, la création, la mise en place de ce secrétariat d'État à minima, ministre délégué pourquoi pas, mais pourquoi pas un ministre des familles comme il était dans les précédents quinquennats. Donc c'est de se dire, il faut un interlocuteur privilégié pour les familles parce que il convient, c'était notre slogan de 2017, mais nous l'avons repris en 2022, de donner confiance aux familles. Et quand les familles auront confiance, le pays ira mieux. Donc je pense qu'il faut absolument insister et vraiment se dire, il faut un ministre des familles.
Bon, bah, on espère qu'on vous entendra, on saura ça, on ne sait pas quand. Alors les familles, on va en reparler au sens large d'ici la fin de cet entretien, mais je reviens sur la thématique que vous allez discuter, sur laquelle vous allez échanger ce week-end à Rodez à l'occasion du congrès national de l'UNAF. Oui, les personnes en perte d'autonomie, isolées, cette thématique elle vous est venue suite un petit peu au Covid, on avait beaucoup parlé de ces sujets-là, des personnes qui étaient toutes seules, bon. Et puis leur situation aussi en EHPAD, qui n'était pas toujours formidable. Il y a plus de familles qui veulent pas se débarrasser de leurs parents ou grands-parents dans les EHPAD, mais qui cherchent d'autres solutions, c'est aussi ça un peu l'ambiance ?
Oui, bien sûr, je pense que là, si vous voulez, la pandémie a remis à l'ordre du jour effectivement la question du vieillissement, mais elle était bien d'actualité avant aussi. Depuis combien d'années on nous annonce la loi du grand âge, même je pense que si on remontait dans la nuit des temps, alors sans aller trop loin, mais je pense que sous le président Sarkozy, on entendait parler d'une loi grand âge, etc.
Oui.
On en a entendu parler effectivement sur le quinquennat de François Hollande. Emmanuel Macron, président de la République, avait aussi dans l'idée d'une loi sur le grand âge, etc. Et puis malheureusement, on a connu deux années de Covid, on a connu la crise des Gilets jaunes, etc. Enfin, il y a eu plein d'événements qui ont fait que cette loi n'est toujours pas votée, etc. Donc, il y a certainement à faire quelque chose. Et on le voit très très bien, où actuellement, on voit bon nombre de personnes âgées qui ne veulent plus aller en EHPAD parce que, malgré tout, du fait de la pandémie, vous avez des personnes qui se sont trouvées très esselées, qui n'ont plus de contact avec leur famille, etc. Donc je pense que ça a été très très dur. Et on voit très bien qu'il y a une appétence à des personnes d'un certain âge de rester le plus longtemps chez eux. Mais le plus longtemps chez eux, ça veut dire quelque part qu'il y a un accompagnement, et on peut savoir gré, évidemment, aux associations de services à domicile d'intervenir, mais ça ne peut pas se faire seul. Il faut aussi que la famille soit, je dirais, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, partie prenante ou partenaire. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, et quelque chose qu'il faut relever également, c'est qu'il y a une pénurie de personnel tous ces domaines.
Et,
et non seulement dans le mode du vieillissement, mais aussi dans le monde de la petite enfance. On nous redonne des chiffres importants actuellement où vous avez bon nombre de crèches qui n'ouvrent pas le nombre de lits qu'elles possèdent parce qu'elles manquent de personnel. Parce qu'il y a une reconnaissance de ces personnels médico-sociaux absolument à avoir, comme il y a une reconnaissance également dans nos services du DAF où on connaît des problèmes de recrutement parce que c'est une démission très particulière. Et effectivement, il faut en face aussi qu'il y ait une rémunération à la hauteur et que ces personnes-là soient reconnues, que ces métiers soient valorisés. Je pense que là, il faut vraiment attirer l'attention des pouvoirs publics en disant il faut une revalorisation, mais je pense que la motivation des personnels est là. Mais encore faut-il que ce soit des métiers reconnus. Donc voilà aussi ce qui sera dans le fil rouge de notre journée, l'AG de l'UNAF. Ce sera vraiment un problème qui sera évidemment vu.
Okay, oui, forcément. Et transversal. Marie-Josée, vous, présidente de l'UDAF, cet aspect personnes âgées isolées, laissées à l'abandon. Enfin bon, là, l'Aveyron est un territoire rural. Comme peut-être le vôtre à la base, la Haute-Loire, Marie-André Blanc. Bon, dans ces territoires, dans ces départements, on a tendance à penser que les familles sont plus proches de leurs anciens que dans les grandes métropoles. J'ai faux ?
Non, je crois que ce n'est pas faux, mais je crois qu'effectivement, notamment en Aveyron, quand même, on a le sens de la solidarité familiale. Alors, est-ce que c'est propre à l'Aveyron ou est-ce que c'est propre aux départements ruraux ? Mais les grandes villes sont peuplées de gens qui ont des origines rurales
Oui, donc à Paris, il y a pas de Parisiens.
Une culture qui aussi, pour la plupart d'entre eux, continue à exister au fil du temps, qui se transmet quand même de génération en génération. Mais de notre côté, je pense qu'il y a une bienveillance par rapport aux personnes âgées, mais il y a aussi des situations où les personnes deviennent tellement dépendantes qu'il n'est plus tout à fait possible de les garder chez soi, avec soi. Et puis d'autre part, les familles, enfin les enfants travaillent, ont des activités professionnelles et il n'est pas toujours facile et ni possible financièrement d'arrêter de travailler pour s'occuper de ses parents ou autres. Donc effectivement, il faut... un certain nombre de personnes restent chez elles, avec des familles très bienveillantes qui les aident, mais qui ont besoin, ces familles-là, qui ont besoin aussi d'aide à domicile, qui ont besoin de soins infirmiers à domicile, qui ont besoin de tout cela. L'un doit compléter l'autre, c'est complémentaire. L'investissement des familles, la solidarité des familles envers les personnes âgées, mais ces familles aussi ont besoin qu'on leur donne un coup de main, qu'elles trouvent des services, etc. Et je voudrais insister sur un point, c'est le problème du répit pour les aidants. On parle beaucoup de répit et il manque quand même cruellement de places de répit, c'est-à-dire un exemple précis, mais ça peut être aussi pour des enfants, des personnes, des enfants handicapés souffrant d'un handicap. Si on veut souffler un petit peu, partir en vacances, si on est malade soi-même, si on doit aller à l'hôpital, etc., il faudrait trouver des places, il y en a très très peu, et ça c'est un vrai souci, des places où on pourrait accueillir temporairement la personne handicapée ou âgée, le temps que on soit parti souffler, soit on soit parti aussi s'occuper de ses petits-enfants quelquefois, etc. Et donc ça, je crois que c'est à développer et c'est extrêmement important. Parce que quand on dit qu'on s'occupe des aidants, effectivement, il y a de l'argent qui a été mis pour plein d'actions autour des aidants, mais la première aide qu'on peut apporter à des aidants, c'est peut-être pas de s'occuper vraiment d'eux, mais de leur permettre aussi d'avoir un répit, d'avoir des services, des dispositifs. Par exemple, on parle beaucoup maintenant de baluchonnage, etc. Soit des personnes qui viennent à la maison,
les remplacer,
qui viennent les remplacer à domicile, ou qu'il y ait des places dans un EHPAD, par exemple, des places temporaires, etc. Mais ça, c'est un problème de finances, c'est un problème d'organisation
aussi.
Et je pense qu'il faut c'est un manque. Ça, on le voit en Aveyron, parce qu'on n'est quand même pas trop mal doté en matière de structure, etc. Mais comme le disait Marie-André Blanc, on a des structures, des ADMR qui sont très présentes sur le territoire, qui font un boulot excellent. Mais aujourd'hui, il y a un problème de personnel.
Et alors, si je peux rebondir effectivement sur le point abordé sur le répit, c'est quelque chose effectivement qui préoccupe beaucoup les familles. Et lors du congrès, il va être présenté par certaines UDAF des actions qui ont été mises en place par des UDAF. Et bien évidemment, nous ne sommes pas dans un monde concurrentiel quand on est à l'UDAF, quand le réseau de l'UNAF, c'est 100 UDAF. Et toutes les expériences qui sont bonnes à valoriser, évidemment que le réseau peut en profiter. C'est ça la force d'un réseau. Parce que si quelque chose se passe très bien dans le département du Bas-Rhin ou du Rhin, ou même un département, on va dire, de l'ouest de la France, il est évident que tout le monde peut s'imprégner de ces actions qui sont bénéfiques pour les familles, pour les aidants et pour la société en général. Donc c'est aussi, je dirais, par ce biais-là que des actions construites, des expériences construites dans certains départements peuvent être transplantées dans d'autres. Et j'en reviens donc sur le dispositif Maison Relais, famille gouvernante. Il est certain que les 78 DAF sur lesquels ces services-là sont gérés n'ont pas inventé tout. Oui. Parce que il y a des collègues qui étaient passés avant et il suffit quelquefois qu'on prenne le dossier dans un département et qu'on aille voir les politiques du département, les pouvoirs publics, en disant ben voilà, voilà ce qui se fait dans ce département. Et nous, eh bien, on pense que pour notre département, on pourrait tout à fait travailler en ce sens. Et bien évidemment, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs tout à fait l'UDAF de l'Aveyron, c'est d'aller voir ce qui se passait dans le département du Tarn, par exemple, mm-hmm. qui est à côté, hein, mm-hmm. et de se dire, ben voilà, on emmène nos politiques, on leur montre comment ça fonctionne, quels sont les leviers à lever. Évidemment, il y a soit la construction d'une nouvelle maison, ou bien la réhabilitation d'une friche, et c'est parfait. Et puis, le problème de fonctionnement, parce que qui dit fonctionnement dit évidemment des crédits à mettre en face. Donc, je pense que quand on voit des choses qui fonctionnent très bien, eh bien, il faut se dire, je m'en saisis, et c'est ça la force du réseau, la force du réseau UNAF, UDAF et URAF.
Un réseau réuni à Rodez ce week-end pour son grand congrès national. Avant de vous laisser repartir et rejoindre les congressistes, mesdames, petite question. Alors, bon, évidemment, cette thématique, elle est pleine d'actualité, hein, autour des personnes âgées face à l'isolement de leur famille. Bon, pour éviter l'isolement, bien sûr. Mais il y a d'autres sujets d'actualité en ce moment et qui concernent alors, là, toutes les familles dans un sens très très large. On parle de l'inflation. On est en plein dedans. Notamment, vous parlez de besoins financiers. Il n'y a pas que les structures, il y a aussi les particuliers, les familles, qu'elles soient 1, 2, 3 ou 4 ou je ne sais combien. Ça fait aussi partie de vos problématiques, vos gros sujets, j'imagine, en ce moment, comme un peu tout le monde.
Bien sûr, la problématique pouvoir d'achat.
Ouais.
Pouvoir d'achat. Quand on a une famille avec des enfants, on consomme plus qu'une famille sans enfants.
Ouais.
Et quand on voit effectivement les augmentations de prix alimentaires, etc., on se dit que bah oui, les familles qui ont un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants et plus, évidemment, subissent de plein fouet ces augmentations. Et ne parlons pas des territoires ruraux où, quand on voit le prix de l'énergie, le prix du carburant,
ouais, du carburant ouais.
on sait très bien que vous avez des familles qui doivent prendre leur voiture pour aller au travail. Eh bien, quelque part, c'est un manque à gagner à la fin de la semaine, voire à la fin du mois.
Ouais.
Donc, c'est vraiment une problématique épouvantable actuellement parce que les prix ne cessent de grimper. Et quelque part, on le voit dans l'alimentaire, etc., mais dans l'alimentaire en particulier, quand un prix a augmenté, dites-moi si quelquefois vous avez vu le prix chuter.
Ah non, ça rebaissera, enfin, non, ça rebaisse pas hein, derrière. Non, on est trop.
On est d'accord. Oh, ouais, ça, donc, quelque part, voilà, il y a une politique familiale qu'il faut absolument mettre en place, redynamiser, je dirais. Et puis, il y a ce qu'on appelle les prestations familiales. Et là, vous avez entendu, donc il va y avoir un projet de loi début juillet qui va évidemment...
Sur le pouvoir d'achat.
Sur le pouvoir d'achat. Mais j'aimerais beaucoup qu'on entende parler de prestations familiales, d'augmentation de prestations familiales.
Je n'ai pas encore entendu parler, moi, ça.
Non, on n'en a pas entendu parler. Donc, vous avez compris qu'après le ministère des Familles, eh bien évidemment, nous sommes attentifs et de se dire il faut une augmentation des prestations familiales.
Mais dans quel... vous avez chiffré, enfin, vous souhaitez... vous dites 5, vous dites 10, vous dites 15, bon, pourcent, hein, je parle en pourcentage.
Alors, je pense qu'il y a eu des calculs de fait, bien évidemment, et on tient à la disposition des services de l'État avec lesquels, bien évidemment, on travaille. Mais il est clair et net que le chèque alimentation de 50 euros... on le demande, bien sûr.
D'accord.
Mais actuellement, on s'aperçoit qu'une famille avec deux enfants, eh bien, le
ça
delta par rapport à un prix, à un budget familial d'il y a un an, c'est plus de 200 euros d'augmentation.
Parce que le chèque en question, c'est un coût, hein, si j'ai bien compris. Hein.
Oui, ça va, tout
donc
à fait.
Donc, ce n'est pas la même chose que des prestations régulières.
Tout à fait. Alors que les prestations familiales sont distribuées aux familles avec enfants. Donc, quelque part, bien évidemment, qu'on appelle de nos voeux, l'augmentation des prestations familiales.
Et tout ça, ça pourrait être annoncé, voire voté cet été. Pour vous, c'est urgent. Bah, pas que pour vous, pour tout le monde. Hein.
Mais écoutez, je pense qu'actuellement, on parle beaucoup de la prime de rentrée scolaire. Hein. On en entend parler parce que les fournitures scolaires, bien évidemment, vont augmenter. Hein, on le sait. Et quelque part, oui, il faut aussi revoir. Et on en échangeait d'ailleurs ce matin. Hein, et on se disait qu'il y a une chose à revoir dans l'attribution des prestations, ce sont les plafonds.
D'accord, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, tout est soumis à conditions de ressources.
Ouais, mais c'est pas indexé ?
Non. Alors, vous avez ce sont vos revenus, effectivement, qui font que vous soyez éligible ou pas, par exemple, à l'allocation de rentrée scolaire.
Oui.
Mais vous avez des ménages qui sont juste ce qu'on appelle au plafond. Bon, donc, si vous avez une petite augmentation
de
salaire,
seuil.
Eh bien voilà, vous avez l'effet de seuil et vous avez gagné peut-être 20 euros de plus. Mais du fait de ce plafond et de l'effet de seuil, vous êtes évincé d'une catégorie de prestations. Et donc, il faut aussi revoir l'augmentation des plafonds.
Bon, eh ben écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end en Aveyron pour ce congrès national. Vous allez avoir le temps, et les congressistes aussi profitent un petit peu du département, du territoire. Pour cet été, je ne sais pas si je vous souhaite de bonnes vacances, parce qu'avec tout ce qu'on vient de se dire, à mon avis, il y a du boulot.
Hein, il y a du travail, je confirme.
Bon, bah, au plaisir de vous retrouver. Merci d'être passé par nos studios. Merci beaucoup, Marie-Josée.
Mais merci beaucoup.
Bon congrès à vous et à vos équipes.
Hein, et à une prochaine fois.
Ah bah, quand vous voulez.
Très bientôt.
La porte est ouverte, oui, à très bientôt. Sur CFM, merci beaucoup.
Merci à vous.